Charles Dickens, Le mystère d'Edwin Drood. Chapitre 1. L'aube. La tour d'une vieille cathédrale anglaise. Comment cette tour se trouvait-elle là? C'était pourtant bien elle, carrée, massive, énorme. Qu'est-ce que cette longue tige de fer qui en sort? Peut-être aura-t-elle été plantée là par ordre du sultan pour empaler une bande de voleurs turcs. C'est ici l'Orient. Les cymbales résonnent, le sultan en grand cortège se rend à son palais. 10 000 cimetières brillent au soleil, 30 000 danseuses s'en vont derrière, décrivant des figures brillantes et jonchant la route de fleurs. Puis viennent les éléphants blancs, richement caparaçonnés, et la foule des esclaves. Cependant, la cathédrale se dresse toujours à l'arrière-plan. Quant à la tige de fer, elle s'élance toute nue. Point de voleurs enfilés à cette horrible pale. L'étrange flèche d'église. On dirait plutôt une immense tringle rouillée faite pour supporter les rideaux d'un lit gigantesque. L'homme qui avait cette vision était en effet couché sur un lit. Cette dernière supposition de la tringle colossale lui arracha même un éclat de rire. Tout tremblant de la tête aux pieds, il se redressa, cherchant à renouer le fil de sa pensée qui le fuyait. Il appuya son coude sur l'oreiller et regarda autour de lui. Quelle misérable chambre! À travers les rideaux déchirés de la fenêtre, se glissent les premières lueurs du jour venant d'une cour infecte. L'homme s'était étendu tout habillé sur ce vieux semblant de lit. Le bois s'est effondré sous le poids qu'il portait, car il ne servait point qu'à ce dormeur. À côté de lui étaient couchés en travers un Chinois, un Lascar et une femme. Les deux premiers étaient en proie à un profond sommeil, ou plutôt à un état de stupeur mortelle. La femme aspirait de toutes ses forces le tuyau d'une pipe qu'elle cherchait à rallumer. Elle tirait de longues bouffées épaisses, tout en protégeant le fourneau de sa main décharnée. Une lueur rougeâtre se reflétait sur son visage et permettait de distinguer ses traits hideusement flétris. « Encore une ! » murmura-t-elle d'une voix plaintive. « En voulez-vous encore une ?» L'homme qui venait de s'éveiller porta la main à son front. « Vous en avez fumé 5 depuis que vous êtes arrivé ici à minuit !» continua la femme de sa voix dolente. « Ma pauvre tête est bien malade, bien malade. Puis les deux autres qui dorment là sont venus après vous. Malheureuse que je suis, les affaires vont mal, bien mal. Il n'y a pas de Chinois dans les environs des docks, encore moins de Lascar, et, dit-on, pas un navire en route. En voici encore une, toute prête pour vous, mon chéri. Vous vous rappellerez, car vous êtes une bonne âme, que l'opium est cher, très cher sur le marché. 3 shillings et 6 pence pour la contenance d'un dé à coudre. Rien que cela. Vous songerez aussi qu'il n'y a que moi et Jack le Chinois qui habite de l'autre côté de la cour, mais je fais mieux que lui, qui possédions le véritable secret du mélange. Vous paierez en conséquence, mon chéri. » Tout en parlant ainsi, elle tirait de nouvelles bouffées de la pipe et absorbait une partie du poison. « Oh, pauvre malheureuse que je suis! Mes poumons sont bien faibles, mes poumons sont bien malades. Voilà votre pipe toute prête, mon chéri. Ah, Dieu, ma pauvre main tremble en vous la présentant. Je vous ai vu revenir à vous tout à l'heure et je me suis dit, il trouvera une autre pipe allumée. Il se souviendra du prix élevé de l'opium, et il paiera bien. Ma pauvre tête! Je confectionne mes pipes avec une vieille bouteille d'encre d'un sou. Voyez-vous cela, mon chéri? J'y ajoute un tuyau, puis je prends mon mélange dans ce dé avec une cuillère de corne, et je remplis... Ah, mes pauvres nerfs! C'est que je me suis enivré pendant 60 ans avant de m'adonner à ceci, car l'opium ne fait pas de mal. Au contraire, il chasse la faim aussi bien que les humeurs noires. » Elle tendait à l'homme la pipe, maintenant à moitié vide. Puis elle retomba sur le lit, la face dans le matelas. Quant à lui, il descendit de ce lit chancelant, déposa la pipe sur la pierre du foyer écarta les rideaux en loques et contempla ses trois compagnons d'un air de dégoût inexprimable. Comment cela se faisait-il? Et pourtant, cela était. À force de fumer l'opium, cette vieille femme était arrivée à ressembler aux Chinois. Même joues proéminentes, mêmes yeux hagards, même teint plombé. Seulement, le Chinois se démenait alors avec d'horribles grimaces qui rappelaient les magots et les démons de son culte. L'hôtesse était immobile. Quant au Lascar, il riait l'écume à la bouche. « Quelle vision peut-elle avoir ?» se dit l'homme éveillé. Il retourna de son côté le visage de la vieille femme et se prit à la considérer longuement. Rêve-t-elle des boucheries et des tavernes où l'on peut avoir crédit, ou bien d'un accroissement de sa hideuse clientèle qui lui permit de remettre en état ce lit effondré et de tenir plus propre son affreuse cour puante? Il se pencha sur elle, écoutant les mots inarticulés qui sortaient de ses lèvres blêmes. « Inintelligible, dit-il. » Des mouvements désordonnés et des soubresauts nerveux commençaient alors à contracter le visage de la vieille comme au temps de chocs électriques. Il la considérait et, chose horrible, il sentait que la contagion allait encore le gagner. Il se retira vers le fond de la chambre et se laissa tomber sur un vieux fauteuil de paille au bras duquel il se cramponna de toutes ses forces, combattant comme il pouvait le mauvais esprit. Tout à coup, il revint au grabat, se rua sur le Chinois, le saisit à la gorge. Le Chinois lui repoussait les mains, se débattait et grognait. « Que dites-vous ? » fit l'homme. Et il écouta. « Inintelligible, » murmura-t-il. Alors il se tourna du côté du Lascar, qu'il jeta bel et bien à bas du lit. Le Lascar se souleva, ses yeux étincelés. Ses bras s'agitèrent par un geste menaçant, il cherchait le fantôme d'un poignard à son côté. L'hôtesse, heureusement, s'était emparée de cette arme qui ne le quittait jamais, et, du ceinturon du sauvage, elle avait fait passer le poignard à sa propre ceinture, quand, vaincus tous deux par l'ivresse, ils s'étaient laissés tomber côte à côte sur ce lit, ou plutôt sur ce fumier. Un colloque, alors, s'établit entre l'homme éveillé et la vieille femme. Peut-être avait-elle conscience de ce qu'elle disait, mais ses lèvres se refusaient encore à produire un son clair et qui eût un sens dans une langue humaine. L'homme jeta une pièce d'argent sur la table et sortit. Cette fois, c'est encore la cathédrale, mais ce n'est plus dans une vision qu'elle se dresse. Voici la tour massive qui se profile réellement sur le ciel clair. Les cloches sonnent pour le service du soir. Le fumeur d'opium est obligé, sans doute par métier, d'y assister. On le dirait au moins à la hâte qu'il met à gagner la porte latérale. Il entre. Les chantres sont en train de revêtir leur robe d'une blancheur douteuse. Ils s'habillent aussi d'une robe blanche et se joignent à la procession qui se rend au chœur. Le sacristain ouvre alors la grille qui sépare la nef de l'autel et l'hymne « Quand le méchant homme, entonné en chœur, éveille les échos de la vieille basilique, qu'il remplit des piliers à la voûte, comme les sourds roulements de la foudre. »